20. J'aurais quand même peut-être dû vous apporter aussi des salutations de notre église locale à Genève, qui s'appelle l'Église évangélique internationale de Genève. Alors, j'y suis pas ce matin, mais ils se réunissent la semaine prochaine. Nous avons notre 4e anniversaire d'existence, car on a démarré cette église il y a juste 4 ans. Une église, on se réunit dans un hôtel et nous avons aujourd'hui 35 nationalités. C'est une des raisons qu'on a donné le nom international à cette église et je vous en parlerai cet après-midi surtout aussi. Voilà, donc nous sommes dans Matthieu chapitre 20 et j'aimerais intituler ce message « La gloire de sa grâce ». La gloire de sa grâce. Et c'est une parabole que vous connaissez certainement, la parabole des ouvriers. Notre frère l'a mentionné tout à l'heure. J'aimerais lire ces quelques premiers versets, d'accord? On va lire ensemble juste pour se mettre dans le contexte. Donc, Matthieu 20, verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit de le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau, vers la sixième heure, vers la neuvième, et fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, » leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. » Et tu les traites à l'égal que nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ? Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers. » Et les premiers seront les derniers. J'aimerais donc vous parler d'un de mes sujets préférés, la grâce de Dieu. Alors, pourquoi ce texte? Alors, bien sûr, c'est le thème de cette journée. Mais honnêtement, il y a une deuxième raison. C'est que je suis une personne très émotionnelle. C'est comme ça que Dieu m'a ficelé. Et cette parabole est très émotionnelle. En fait, c'est un des rares passages dans la Bible sur lequel j'ai pleuré tellement il m'a affecté émotionnellement lorsque je l'ai étudié pour la première fois. Ce passage fait battre mon cœur à toute vitesse, avec émerveillement, avec fascination. Je le contemple un peu comme les anges dans 1 Pierre 1:12 qui plongent le regard avec étonnement vers les hommes pour voir comment fonctionne cette grâce que Dieu a manifestée sur eux. Et donc, ma prière ce matin, c'est que je puisse vous communiquer juste un peu de cet éblouissement devant cette parabole. Mais j'aimerais vous avertir, cette parabole va vous déranger. Elle dérange. Oui, elle dérange parce qu'une lecture prémillénaire, comme nous venons de le faire, nous donne une sorte de réaction préliminaire. Qu'est celle-ci? Ce n'est pas juste. On a l'impression, tout simplement, que ce qui se passe ici n'est pas juste. On a l'impression que ce n'est pas équitable, ce qui se passe ici. Et c'est justement le but de cette parabole. Le but de cette parabole, c'est de relever chez nous, chez le lecteur, ce sentiment d'injustice. C'est l'émotion que le Seigneur Jésus-Christ veut susciter en nous qui l'écoutons, qui la lisons. Car nous allons voir justement que la grâce de Dieu n'est pas juste. Non, elle n'est pas juste. Non, la grâce de Dieu n'est rien d'autre que miséricorde. La grâce de Dieu n'est rien d'autre qu'une bénédiction non méritée de la main généreuse de Dieu. Voilà pourquoi cette parabole nous dérange. Car lorsque nous saisons ce qu'est vraiment la grâce, elle perturbe. Quelque part, la grâce, elle est scandaleuse, car elle n'est pas juste. Alors, définissons les termes. Définissons les termes. Qu'est-ce que la grâce ? Alors, je vous donne une définition. La grâce veut dire ceci. C'est l'amour et la faveur imméritée de Dieu, gratuitement accordée aux hommes par Dieu. Vous connaissez certainement Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, la grâce de Dieu, c'est le don du salut gratuitement accordé par Dieu à cause de son Fils Jésus-Christ, reçu par la foi. Ça, c'est la définition, si je peux dire ainsi, de la grâce. Regardons à cette parabole. J'aimerais la diviser en trois parties toutes simples. Nous allons en premier regarder la parabole. Ensuite, nous allons regarder le deuxième grand point, le pourquoi de cette parabole. Et troisièmement, les principes qu'on veut tirer de cette parabole. Alors, parcourons en premier la parabole pour essayer de la comprendre. La parabole. Regardez le verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Alors, écoutez, c'est une parabole relativement simple. Et nous voyons qu'elle a un but de décrire un aspect spécifique du royaume des cieux, qui est le règne ou l'économie de Dieu sur terre. Nous verrons dans quelques instants un petit peu mieux ça. Alors voici l'histoire. Il y a un maître, un homme, qui possède un vignoble important. Le temps de la vendange est arrivé. Probablement le mois de septembre. Et le verset 1 nous dit que ce maître va engager des ouvriers pour sa vigne, des ouvriers journaliers, pour venir et cueillir les raisins. La journée juive commençait à 6 heures du matin et terminait à 6 heures du soir, longue journée de 12 heures. Donc, il est 6 heures du matin, peut-être quelques minutes avant, et il va, probablement à la place du marché, pour trouver des hommes à engager. Verset 2, il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Donc il va à la place du marché, c'était l'endroit où l'aide temporaire se trouvait pour la journée, et il engage ses hommes, et ils se mettent d'accord sur la paye. Il convient avec eux d'un denier par jour. Alors là, c'est très important, il faut savoir qu'un denier était un salaire très correct. C'était en fait le salaire journalier d'un soldat dans l'armée romaine, des soldats professionnels. Ces ouvriers-là n'étaient pas nécessairement des professionnels spécialisés, ils cueillaient simplement. Donc ces hommes ont une bonne situation pour la journée. Verset 3. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. 3 heures plus tard, la troisième heure, il est donc 9 heures du matin. Le maître, de nouveau, passe au marché. Et il voit d'autres ouvriers qui attendent là sans rien faire. Alors vous savez, je suis américain à la base, et à Los Angeles, si vous y allez, vous verrez que le matin, vers les 6h, 7h, 8h, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent d'être engagés pour la journée. C'est quelque chose qu'on voit vraiment régulièrement à Los Angeles, souvent des Mexicains qui sont montés aux États-Unis et qui attendent d'être engagés pour la journée. Donc pour moi, c'est une scène très habituelle que je vois à Los Angeles. Alors il retourne 9h du matin, et là il y a encore d'autres ouvriers qui attendent. Sans rien faire, ils attendent d'être engagés. Alors, qu'est-ce qu'il fait le maître ? Regardez, c'est ce qu'il a dit. Il les engage sur le champ. De nouveau, aucune négociation de salaire. Il leur dit simplement, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Il leur promet un salaire raisonnable pour un travail raisonnable. Apparemment, il était connu, ce gars, dans ce village, parce qu'il n'y a pas de négociation. On le connaissait, il était bon, il était généreux, il tenait sa parole. Donc, il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ils y allèrent. Moi, je pense qu'ils étaient super contents, engagés à 9h du matin pour une journée de travail devant eux. verset 5. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Alors maintenant, c'est la sixième heure, c'est donc midi, puis encore à la neuvième heure, 3 heures de l'après-midi. Ce maître, de nouveau, va à la place du marché. Il aperçoit l'autre ouvrier encore qui était là sans rien faire, et il fit de même. Il les engage à leur tour, promettant apparemment un salaire raisonnable pour les heures de travail qu'ils vont faire. Rien n'est dit sur le montant. Ces hommes lui font confiance et ils partent. Alors là, je pense, je ne sais pas si on est engagé à midi à 3 heures de l'après-midi. Là, tout d'un coup, on est tout content. Ça fait peut-être des heures et des heures qu'on attend. On est engagé, on est super content. Donc, ils partent à la vigne heureux. Verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» D'abord, la 11e heure, c'est 17 heures. La journée de travail termine une heure plus tard. Le maître se trouve de nouveau à la place du marché et que voit-il ? Des ouvriers qui attendent d'être engagés. Alors il leur demande pourquoi ils sont là. Ils répondent, pas parce que personne ne nous a engagés, alors on attend. C'est étonnant qu'ils soient encore là, si tardivement dans la journée. Mais alors, comme pour les autres, le maître les engage sur le champ et les envoie à la vigne pour travailler. Si ça avait été vous, quelle aurait été votre attitude ? Waouh ! Génial ! Je vais travailler une heure, j'étais engagé. Alors voilà l'histoire. Voilà l'histoire. L'histoire d'un maître qui engage 5 vagues successives d'ouvriers à 3 heures d'intervalle chacune. Bon, plus ou moins, les ouvriers sont engagés à 6 heures du matin, 9 heures du matin, midi, 3 heures de l'après-midi et 5 heures de l'après-midi. Et ça nous amène au verset 8. Nous sommes maintenant à la fin de la journée, au moment de la paye. Alors, je vais vous poser une question. Je ne sais pas en Belgique si on parle d'argent facilement, mais je vais quand même vous poser cette question. Je vous pose une question, répondez-moi honnêtement. Est-ce que vous aimez être payé ? Amen ! Est-ce que je peux l'entendre encore plus fort ? Est-ce que vous aimez être payé ? Ouais ! Ben moi aussi ! Bienvenue au monde réel, mes amis. J'aime beaucoup être payé. Mais oui, Jésus l'a dit, un ouvrier mérite son salaire. Il n'y a pas de mal de travailler, d'être payé. Même d'être bien payé, ce n'est pas un mal. C'est très bien, bénissez le Seigneur si vous êtes bien payé. Ben, c'est le cas pour eux. Ces ouvriers ont travaillé toute la journée. Le moment de la paye est arrivé. Verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Moi, je me dis que ces ouvriers, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de toucher leur paye et rentrer. Donc, il les paye. Mais alors, notons quelque chose. Le maître demande à son intendant de faire 2 choses vraiment étranges. 1. La première chose étrange, c'est qu'il lui demande de payer les ouvriers allant des derniers aux premiers. Quand le soir fut venu, verset 8, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Donc, ils se mettent en rang avec les hommes engagés les derniers au devant de la queue et les hommes engagés les premiers tout derrière. Donc, ceux qui ont le moins travaillé étaient devant, ceux qui ont le plus travaillé étaient derrière. C'est clair et net ce qu'ils leur demandent de faire. Deuxième chose très étrange qu'ils lui demandent de faire, au verset 9, « Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. » La deuxième chose étrange ici, c'est le montant payé. Au verset 9, on apprend que les ouvriers engagés en fin de journée, donc à la 11e heure, donc à 17 heures, qui ont travaillé une heure, En fait, moi, j'ai envie de dire moins d'une heure parce qu'il fallait y aller au champ et revenir. Reçoivent chacun combien ? Un denier. Mais attendez voir. Ça, c'est le salaire d'un jour entier reçu pour une heure de travail. Honnêtement, que pensez-vous était leur réaction ? Attendez voir, si ça avait été moi, moi j'aurais dit « C'est top les mecs ! C'est incroyable !» Non mais attendez voir, c'est le rêve de chaque homme et de chaque femme. De travailler peu et gagner beaucoup. Mais attendez voir, c'est ça qu'on veut dans la vie, c'est ça que les gens veulent. Et je pense que ces hommes reçoivent leur denier et ils partent en dansant, tout contents. « Waouh, super !» Question. Que pensez-vous était la réaction des ouvriers en fin de ligne qui voyaient ce qui se passait ? Parce que je pense qu'une fois que les premiers étaient payés un denier, hein, ça discutait, ouais, ils ont reçu un denier pour une heure de travail. Alors les gars derrière, ils calculent. Hein. Ah, mais attends, est-ce que j'ai bien compris là ? Si le huilier a travaillé une heure un denier, moi 12 heures, 1 fois 12, ça fait 12. Tiens ! Moi, je vais recevoir 12 deniers, mais allez voir. Ça, c'est le top du top du top du top. C'est une journée de travail, 2 semaines de salaire. Et on sait qu'ils croyaient qu'ils allaient recevoir davantage. Parce que regardez le verset 10. Les premiers vinrent ensuite croyant recevoir davantage. Donc, ils ont bien vu que cet homme payait beaucoup et ils étaient convaincus qu'ils allaient recevoir plus. Et alors, avec tous les regards fixés sur l'intendant, celui-ci a commencé à payer les ouvriers un après l'autre. Et là, lentement, l'expression des ouvriers en fin de ligne a commencé à changer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très vite réalisé que l'intendant payait chaque ouvrier exactement le même montant, un denier. Chacun, quel que fût le nombre d'heures travaillées. Hein, le verset 10, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Alors, j'aimerais m'arrêter une seconde et vous poser une question. Alors, vous pouvez répondre dans votre cœur, hein, si vous voulez. Honnêtement, est-ce que vous pensez que c'est juste ? On est mal à l'aise ? Honnêtement, est-ce que vous pensez que c'est juste ? Allez voir, j'ai entendu des non et j'ai entendu des oui. Non ? Alors voilà, cette tension, c'est exactement la tension voulue. C'est le but. Alors maintenant, je vais mettre ma casquette normale. Honnêtement, est-ce que c'est juste ? Que quelqu'un qui travaille une heure et quelqu'un qui travaille 12 heures reçoivent exactement la même paye. Ben dans notre société, on a envie de dire, ben non, c'est pas juste. Quelque part, je comprends, moi, la réaction de ces ouvriers, humainement parlant. C'est vrai que ça paraît pas juste. Alors, le verset 12, regardez ce qu'il dit au verset 12. Ben, verset 11, en premier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils sont vraiment pas contents. Mais verset 12, et ils dirent, mais ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Mais on a travaillé 12 heures. Nous, sous la chaleur écrasante, je sais pas si vous connaissez l'Israël, mais allez voir, là, ça cogne. Alors ils sont fatigués, soleil, travail, 12 heures. Et les autres, là, ils arrivent à 5 heures de l'après-midi, tac, ils cueillent quelques petites raisins, même pas de sueur, tranquille, tac, ils reçoivent la même paye. Non, mais t'as voir, c'est quand même pas juste. Et voilà pourquoi ils ont murmuré. Alors, regardons la réponse du maître au verset 13. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Écoutez, là, on arrive au cœur de la parabole. Regardez ce qu'il dit au verset 13, ce maître. Mon ami, je ne te fais pas de tort. C'est la clé pour comprendre la parabole. Suivez-moi. Est-ce que le maître était injuste de payer les dernières arrivées un denier? Est-ce que c'était injuste? Non. C'était super généreux. C'est tout à fait différent. C'était hyper généreux de payer le gars qui a travaillé une heure, la paye d'un jour. C'est pas injuste, c'est généreux. Est-ce que c'était injuste de payer les premiers venus, ceux qui ont travaillé 12 heures, un denier? Est-ce que c'était injuste? Non. Non, c'était le salaire d'un soldat professionnel romain. Ils étaient tout contents, ces gens-là, d'avoir été engagés pour un denier. Ils n'avaient jamais eu l'impression qu'ils se faisaient rouler par le maître. Ils étaient tout à fait contents et heureux. C'est simplement plus tard, quand ils se sont comparés avec les autres, qu'ils ont été mécontents. Mais dans leur cœur, au début, ils étaient très contents, c'était très généreux, il était bon avec eux. Il avait une bonne réputation, ce maître. Donc il n'était pas injuste, il était généreux. Est-ce que ce maître était injuste de payer les autres venus tout au long de la journée, à 9h, à 12h, à 3h de l'après-midi? Est-ce que c'était injuste de leur payer un denier? Non, c'était généreux. Voyez, le but ici, c'est que c'était généreux pour tout le monde. Tout le monde a gagné dans l'affaire. Au verset 4, il dit qu'il leur a donné ce qui est raisonnable. Qui veut dire que le maître, mes amis, a tenu promesse envers tous. Il était bon et juste et généreux envers chacun d'eux, du premier au dernier. Voyez-vous, le problème ici, ce n'est pas le maître. Le problème, c'est l'attitude des ouvriers engagés en début de journée. Voilà, eux, il est dit le texte, ils voyaient de mauvais œil qu'il était bon envers tous. Quelque part, c'était eux qui avaient l'impression qu'ils devaient recevoir plus, mais non. Non. Le maître était bon, juste, généreux et doté de grâce envers tous. Et ça, c'est la parabole. La parabole. Deux. Le pourquoi. Alors, bien sûr, quand on étudie une autre Bible, on lit une parabole comme ça, ensuite, il faut se poser la question, mais pourquoi elle est là? Pourquoi? Pourquoi cette parabole? Quel est son but? Quelle est la pensée derrière cette parabole? Pourquoi Jésus l'a-t-il évoquée ici? Ah, eh bien, pour la découvrir, et ça, c'est une des règles fondamentales de l'étude de la Bible, pour comprendre le pourquoi, il faut comprendre le contexte. Pourquoi elle est là, vraiment, dans le texte? Alors, regardez verset 16, déjà. Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers. Alors, certaines Bibles ajoutent ici la phrase « car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Mais cette phrase n'apparaît pas dans les meilleurs manuscrits. Elle aurait été probablement empruntée de Matthieu 22, 14. Bref, la phrase, elle est simple. Regardez verset 16. « Ainsi, les derniers seront les premiers seront les derniers ». Et le « ainsi » lit bien ce verset avec la parabole qui vient de précéder. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette phrase? Eh bien, écoutez, c'est simple. D'égalité, apparemment. Les derniers seront les premiers seront les derniers. On a l'impression qu'il parle d'égalité ici. Et c'est exactement ce que cette parabole illustre si bien. L'égalité. Et nous avons vu au verset 1 que cette parabole décrit quelque chose dans le royaume de Dieu, car le royaume des cieux est semblable. Donc, il fait une parabole pour décrire ce qu'est ce royaume des cieux. Et cette phrase, donc, souligne bien l'égalité dans le royaume des cieux. Comme quoi, à la fin, les premiers et les derniers terminent pareil. Ils arrivent à la ligne d'arrivée en même temps. Ils arrivent, on dirait, ex aequo. Tous les ouvriers, qu'ils aient été engagés tôt ou tard dans la journée, reçoivent un denier chacun. Ça, c'est ce qu'on appelle l'égalité. Maintenant, regardez, on va reculer jusqu'au chapitre 19 et verset 30. Dernier verset du chapitre 19, regardez. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Tiens, tiens, tiens. on a exactement la même phrase qu'au chapitre 20, verset 16, mais inversée. Je ne sais pas si vous mangez des hamburgers chez McDo ou autre part. Moi, j'aime bien, je raffole de ça. Un hamburger, il y a pain, viande, pain. C'est un peu ici, d'accord ? On a pain, chapitre 19, verset 30, pain, chapitre 20, verset 16, et la viande au milieu. D'accord ? C'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce que cela est en train d'illustrer ? Alors, chapitre 19, verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Moi, je pense, puisqu'on sait très bien que la partition des chapitres n'est pas inspirée, c'est que les paroles qui sont inspirées, si ça avait été moi qui devais mettre le chapitre 20, j'aurais commencé au dernier verset du chapitre 30, du chapitre 19. J'aurais mis ces deux phrases ensemble, parce qu'elles sont clairement liées à la parabole. Égalité, parabole, égalité. Ok, alors on apprend qu'il y a égalité dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce qu'on peut voir encore plus clairement ? Oui, il faut reculer un peu plus. Quels sont les deux derniers mots au verset 29 du chapitre 19 ? Vie éternelle. C'est la clé. Je vais lire tout le verset 29. Et quiconque, Jésus dira, a dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ah, vous voyez, là on commence à comprendre le contexte de cette parabole. Le contexte est clairement la vie éternelle, ou bien la destinée finale de tous les croyants. Ce que nous appelons tout simplement le salut. En fait, si vous prenez tout le chapitre 19, qui est le contexte, on a ici l'histoire du jeune homme riche. Vous rappelez cette histoire, à partir du verset 16. Et regardez ce qu'il dit, verset 16, « Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Tout le chapitre décrit la vie éternelle et comment on accède à la vie éternelle. Et la conclusion de Jésus au verset 29 à ses disciples. « Et quiconque aura quitté à cause de moi, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, terre, maison, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Jésus est en train de dire, « Quel aura été le sacrifice engendré pour suivre Jésus-Christ, la vie éternelle est promise pour tous ceux qui suivent Jésus-Christ. » Et la parabole vient, que tu aies été engagé en début de journée ou en fin de journée, que tu aies travaillé toute la journée ou que la dernière heure, que tu aies servi le maître dans la chaleur de la journée écrasante du soleil ou dans la brise fraîche du soir, la destinée finale est la même pour tous. La paye est la même. Tous les croyants reçoivent un denier qui symbolise tout simplement la vie éternelle. Mais écoutez, ça c'est rien de nouveau. Je sais pas, quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, moi j'utilise toujours Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est là. Est-ce que c'est parce qu'on dit à tout le monde, qui que tu sois, si tu crois en Christ, tu te repens de tes péchés, il te pardonne, tu recevras quoi ? La vie éternelle. Donc c'est ce qu'on dit aux gens. Écoutez, c'est encore mieux, enfin encore mieux, on ne peut pas dire ça, c'est la parole de Dieu inspirée, elle est toute parfaite, d'accord ? Mais Éphésiens 1, 3 à 4 dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a, écoutez bien, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, pour que nous soyons saints et irréprochables en lui. Mais allez voir, c'est incroyable, il est en train de dire qu'en tant que chrétien, il nous a réservé quoi ? Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ça, vous pouvez le dire à quelqu'un. Si tu crois en Christ, tu vas recevoir gratuitement toute bénédiction spirituelle ou dans les lieux célestes avec qui ? Christ. Waouh ! Écoutez, cette parabole, mes amis, enseigne un principe tout simple. Que la vie éternelle est promise à tous ceux qui croient et qui suivent Jésus-Christ. Ça, c'est le but, c'est le pourquoi de cette parabole. Et vous dites, c'est tout ? Oui, c'est tout, c'est le but. Vous dites, ouais, mais attends, John, est-ce qu'il y avait besoin de 16 versets pour dire ça ? dans la parole inspirée de Dieu. Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire en un verset? Ben oui, Jean 3, 16. C'est possible de dire qu'en un verset. Oui, mais alors, mais pourquoi a-t-il fallu tellement de versets pour dire ça? Ah, j'ai dû réfléchir. Et je crois qu'on voit la doctrine de la grâce émerger de cette parabole d'une manière, mais alors franchement spectaculaire. Et c'est ce que j'aimerais faire en troisième point. On a vu la parabole, on a vu le pourquoi. Maintenant, j'aimerais qu'on en tire les principes. Et c'est là où mon cœur, quand j'ai découvert ces choses, m'a vraiment grippé, quoi. C'est incroyable. Je crois qu'on voit dans cette parabole la gloire éblouissante de la grâce de Dieu, surtout dans deux domaines. Regardez, numéro un. La grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous considérons les différentes durées de service au Seigneur pour les croyants. Alors, on a vu que certains ouvriers ont travaillé 12 heures, d'autres 9 heures, d'autres 6 heures, d'autres 3 heures, certains 1 heure. Ils ont tous reçu la même paye. La même chose est vraie avec la vie éternelle. Tous les croyants, quelle que soit la durée de leur service de foi, reçoivent la vie éternelle. Je vous donne un exemple. Prenez vos Bibles et allez avec moi à Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Genèse chapitre 5. Au verset 21, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Enoch. Regarde. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha, écoutez bien, avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Alors, c'est étonnant. Ce verset nous dit que Enoch marcha avec Dieu combien d'années? 300 ans. Alors, tenez-vous bien, réfléchissez un petit peu. Ça fait super long, 300 ans. 300 ans, j'en ai 55. 300 ans, il a marché avec Dieu. Et ensuite, le verset 24 nous dit qu'il fut enlevé par Dieu. Il ne marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Alors, il est dit dans 2 Rois 2:11 qu'Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il est monté au ciel avec Dieu. Donc, nous avons l'impression que Élie et Enoch sont les deux hommes qui ont été enlevés. Ils n'ont pas connu la mort. Ils ont été enlevés par Dieu. Et ils sont allés où? Eh bien, Élie est allé au ciel. Donc, conclusion, Enoch est aussi allé au ciel. Ils ont reçu, ces hommes, la gloire du ciel, de la présence de Dieu. Et Enoch a reçu cela après 300 années d'avoir marché avec Dieu. Maintenant, allez avec moi à Luc 23. Luc 23. Alors, vous vous rappelez, lorsque Jésus a été crucifié, il a été crucifié avec deux brigands, un à droite et un à gauche. Et dans Luc 23, on a ce court récit de ce qui se passe. Regardez au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on ne méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Alors écoutez la réponse de Jésus, époustouflante. Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui. » Tu seras avec moi dans le paradis. Écoutez, mes amis, ce brigand sur la croix était vraiment l'homme de la dernière heure. Il a cru combien de temps avant d'aller au ciel? 1 heure? 3 heures? 6 heures? Je ne sais pas. Où est-il allé? Au paradis avec Jésus, c'est ce qu'il lui dit. Cet homme a reçu le jour même le paradis. Écoutez, il était étonnant de penser qu'un homme qui vient à Christ une heure avant mourir passera l'éternité dans la joie du paradis éternel, dans la présence de Dieu, dans le même paradis qu'une personne qui a marché avec Dieu pendant 300 années. Et ils sont côte à côte là-haut. Lorsque je suis devenu chrétien en 1976, eh bien, je voulais que tout le monde connaisse Christ. Alors j'ai commencé à annoncer l'évangile comme je pouvais, adroitement et maladroitement à ma famille. Plusieurs sont venus à Christ, dont ma grand-mère, mais mon grand-père, dans le Oklahoma, c'était dur, il ne voulait rien savoir. Et j'ai essayé, mais c'était pas peu, il ne voulait rien savoir. Et un jour, j'étais en Europe, et j'ai appris par son infirmière qu'il était décédé. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jour après sa mort, l'infirmière qui était à son chevet nous a appelés, elle était chrétienne. Elle nous a raconté ce qui s'est passé. Elle a dit que mon grand-père était au lit, mourant. C'était vers les 3 heures du matin. Et soudainement, il a ouvert les yeux. Elle était là, juste à côté de lui. Et avec toute la force qui lui restait dans son corps fragilisé, il s'est levé et il s'est assis dans son lit, a-t-elle dit. Il a ouvert ses bras comme ceci et il a dit « Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. » Il est retombé dans le lit. Il est mort. Alors, moi, je ne connais pas le cœur de mon grand-père. Mais si son cœur était vraiment un cœur repentant, et qu'il a réellement demandé à Jésus-Christ, mort et ressuscité, de rentrer en lui et de lui pardonner son péché, je vous pose une question. Où est mon grand-père aujourd'hui? Il est là avec Enoch et le brigand sur la croix. Mes amis, la vie éternelle est accordée à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en Jésus-Christ et qui se confient en lui. Que tu l'aies servi pendant de longues années ou pendant une heure, ça, c'est insignifiant. Ils reçoivent tous un denier. Ils reçoivent tous la vie éternelle. Et là, je pose la question, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que c'est vraiment juste qu'une personne qui a cru une heure, qui a vu une vie de rébellion pendant toute sa vie et qui croit à la dernière heure, reçoit la même vie éternelle que quelqu'un qui a cru et qui a marché avec Dieu pendant 300 ans? Est-ce que c'est juste? Non. C'est la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le don gratuit de la vie éternelle donné à toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ. C'est pour ça que je suis zélé, que je veux que annoncer l'évangile, même si les gens me prennent pour un malade et un fou, c'est pas grave. Parce que s'ils croient, ils auront la vie éternelle. C'est pour ça qu'on ne devrait pas avoir peur. Imaginez ce qu'on annonce aux gens. Ton péché peut être pardonné en un instant et tu peux recevoir toute la gloire du ciel. Non mais t'allais voir, c'est incroyable le truc. C'est incroyable. Deuxième principe qui ressort de ce texte. La grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous comparons les sacrifices inégaux subis par les chrétiens. Revenons à la parabole. Alors, certains ouvriers ont travaillé toute la journée. Pas seulement long, mais dur. La chaleur écrasante, le soleil de plomb qui frappait fort, le dur labeur de cueillir des raisins pendant 12 heures d'affilée. Imaginez les dos. Ils avaient soif, ils avaient faim. Vous savez, je ne pense pas qu'à l'époque, ils avaient des glacières au bout, là, vous savez, des rangées, avec des canettes de coca. diet, non diet, du coke light, non light, du coke, c'est quoi les nouvelles versions là, enfin, ouais. Zéro, coke zéro. Non, s'il te plaît, moi, il me faut un coke zéro là, tu vois. Je crois ça, ils avaient des glacières avec des, je sais pas, avec le velcro là, on peut avoir des grosses bouteilles d'eau, puis on boit. Non, encore mieux, des sacs à dos avec le tube, hein. D'accord, ça c'est très à la mode, c'est surtout dans les Alpes, hein, quand ils, c'est toujours, il faut de l'eau disponible, toujours. Non, c'était pas pareil, je crois, à l'époque. Non, c'était dur. Et cette parabole nous montre que certains ont eu cette journée pénible, d'autres facile. Et ceci illustre une vérité importante. Voyez-vous, certaines personnes viennent à Christ et au Seigneur dans les pays qui sont très hostiles à leur foi. Ils doivent sacrifier énormément. Leur labeur est difficile. C'est exactement dans Matthieu 20 ce que Pierre avait dit au Seigneur en tant que réaction. Au verset 27 du chapitre 19, Pierre, prenant alors la parole, leur dit « Mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera pour nous ?» Quelque part, Pierre il dit « Mais t'as voir, nous on a tout sacrifié, j'ai tout abandonné et c'est quoi ma récompense ?» On est assez humain. Jésus leur répondit, verset 28, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur les trônes de sa grâce, de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus, dont vous serez honorés. » Verset 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou sa maison, c'est vrai qu'il y en a, ça leur coûte tout ça, recevra le centuple, héritera la vie éternelle. » Certains sont même appelés à sacrifier leur propre vie pour l'Évangile. Allez avec moi dans Hébreux. Regardez Hébreux. Incroyable. Hébreux 11, verset 35. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté. Alors, l'Hébreux 11, c'est la, comment dire, c'est disons le passage où il y a listé tous ces grands hommes et femmes de la foi. Mais il faut s'arrêter sur verset 35. Oui, c'est des grands hommes de la foi, mais regardez, verset 35, chapitre 11 de Hébreux, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés. Moi, c'est le prochain mot que j'ai de la peine. Sciés. Imaginez quelqu'un prendre une scie, parce que vous êtes chrétien, et vous scie en deux, peut-être même vivant. Moi, je ne peux même pas imaginer ça. Torturés, ils moururent torturés par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau, de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, et dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Voyez-vous, certaines personnes souffrent énormément pour la foi. Je ne sais pas si vous connaissez le musée du désert dans les Cévennes. Si vous ne le connaissez pas, un jour, si vous avez l'occasion, je vous recommande d'y aller, d'aller voir, de prendre du temps, vous allez regarder ce musée. Parce que ce musée trace, entre autres, l'histoire des protestants de France et de leur persécution, surtout durant la période dite du désert, 1702 à 1704. Vous vous rappelez sans doute que Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes en 1685. L'édit de Nantes qui avait été en fait signé par Henri IV en 1598, il l'a révoqué. Et là, les protestants n'avaient plus la liberté de culte en France et tous les moyens étaient bons pour obtenir l'abjuration des protestants ou des huguenots. Alors, Louis XIV avait une armée qui s'appelait les Dragons du Roi. Et leur job, c'était d'y aller, débusquer les protestants et tout faire pour qu'ils abjurent. Alors, ils avaient une technique assez intéressante. Ils allaient, ils écoutaient, parce que les Cévennes, c'est très montagneux. Et les protestants se réunissaient à l'extérieur et chantaient. Donc, ils écoutaient. Lorsqu'ils entendaient chanter, ils allaient les trouver. Alors les Cévennes ont été le théâtre de ces guerres de Camisards. Beaucoup de gens sont décédés. Alors si vous aviez été pris à l'époque et vous étiez pasteur, alors c'est pour ça que je raconte cette histoire, parce que je suis pasteur, si vous étiez capturé et vous n'abjuriez pas, vous receviez la pire des tortures, ça s'appelle la roue. Il y en a une dans le musée, une grosse roue. Ils mettaient ça sur une estrade dans le centre du village. Et par ici, c'est une roue montée horizontale. On prenait le pasteur et on le mettait, on l'attachait sur le dos, sur la roue. La roue, on pouvait la tourner. Le bourreau venait avec une barre en métal. Et il commençait avec les doigts de pied. Il prenait sa barre, fou, il brisait les os du doigt de pied, et il brisait méthodiquement le pied et la jambe, l'autre pied et la jambe. Ensuite, il commençait avec les doigts, les bras jusqu'à là. Il brisait lentement le corps entier du pasteur, mais jamais la tête, étant certain de ne pas le tuer. Et là, on le laissait mourir pendant 2-3 jours à la vue de tout le monde. Les femmes de pasteur étaient envoyées à la célèbre tour de Constance, où Marie Durand est la plus célèbre des prisonnières. Elle était enfermée pendant 28 ans dans cette tour. Moi, j'ai visité sa cellule. Chaque semaine, un prêtre venait, lui disait, Marie Durand, renie ta foi, tu peux sortir. Pendant 28 ans, elle a dit non. En fait, elle a gravé, on peut le voir, résister. Et les enfants de pasteurs, eux, étaient envoyés dans les couvents pour être obligatoirement instruits dans la religion du roi. Si un jour vous avez l'occasion de venir chez moi, je suis en Haute-Savoie, juste à côté de Genève, à 5 minutes de la frontière, dans mon bureau, j'ai une photo de mon épouse, Meg, et juste à côté, une photo de la tour de Constance, pour me rappeler que si j'avais été moi, vivant à cette époque, moi j'aurais reçu la roue, et elle serait dans la tour de Constance. Et nos enfants, qui sait? Moi, j'ai jamais connu ça. Jamais. Vous connaissez l'histoire de la dame de Graveron? C'est une histoire qui m'a beaucoup affecté aussi à l'époque. Probablement parce que moi, comme elle, j'ai grandi dans une certaine prospérité. Mon père est homme d'affaires. Je me trouve un petit peu dans ses propos. On est en 1557 dans la rue Saint-Jacques à Paris. Les protestants assistaient à un culte nocturne et secret dans la maison d'un des leurs. Soudain, une foule ameutée par des prêtres assiège le logis. Un grand nombre de personnes sont prises et une vingtaine de ce qu'on appelait des dames de qualité, protestantes, chrétiennes, évangéliques. Alors l'affaire était intéressante parce qu'elle montrait que le protestantisme évangélique s'était bel et bien infiltré dans les hautes classes. Mais 7 de ces personnes ont été condamnées à mort, dont la dame de Graveron. Alors, c'est intéressant, cette dame, elle était riche et délicate, comme on le raconta plus tard. La dame de Graveron avait une telle défiance d'elle-même qu'elle avait prié Dieu tous les jours de l'exempter de la souffrance du martyr, ayant de la peine à souffrir une morsure de puce ou un rayon de soleil. Comment aurait-elle pu supporter la violence des bourreaux? Elle était condamnée au bûcher. Elle a voulu être menée au supplice sans ses vêtements de deuil et revêtue de son chaperon de velours comme pour être jointe à son époux Jésus-Christ. Sur le lieu d'exécution, elle vit là, et je cite, un des martyrs qui devait être couronné par Dieu ce jour-là avec elle, lui qui frémissait à la parole du bourreau, lui demandant sa langue pour la couper et qui en faisait refus, alléguant que la sentence n'ordonnait pas ce supplice. Donc le bourreau voulait couper la langue d'un autre protestant, et là il refusait. Alors voici ce que la dame de Graveron a dit. « Et quoi, mon frère ? Refusez-vous votre langue à celui qui a offert pour vous en sacrifice son corps et son âme ?» Et elle dit au bourreau, « Viens, mon ami, et commence par moi. » Flamboyé, ensuite au bas du corps et au visage, et fut étranglé avant d'être brûlé. Et ça, c'était l'histoire de Madame de Graveron. Alors, la question est celle-ci. Où pensez-vous sont ces martyrs aujourd'hui? Ils sont où? Matthieu 19, 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra la vie éternelle. » Écoutez, j'ai aucun doute que Madame Graveron et tous ses martyrs et ses pasteurs et ses femmes de pasteurs sont dans le ciel, bien sûr, s'ils connaissaient Christ personnellement, mais je pense que pour ces histoires-là, c'est presque certain que ces gens connaissaient Christ personnellement. Oui, aujourd'hui, ils jouissent d'une joie parfaite qu'ils trouvent dans le ciel. Ils ont la vie éternelle et ils sont inondés en plus de récompenses. Voyez-vous, eux, la parabole, ce sont ceux qui ont travaillé de longues journées. C'était dur. Et leur foi, ils l'ont vécue dans la difficulté, dans le tourment, dans le sacrifice. Mais regardez, mes amis, regardez, c'est ça qui est incroyable. Vous savez quoi? Tout le monde ne souffre pas pour Christ comme cela. D'autres qui connaissent Christ donnent l'impression de ne jamais souffrir, de ne jamais devoir sacrifier quoi que ce soit dans leur vie. Regardez-moi. Je n'ai jamais, à ce jour, versé une goutte de sang pour l'Évangile. On m'a insulté, on m'a dit des tas de trucs. Jamais une claque, jamais un coup de poing, jamais. Non, il y a des gens qui naissent dans des pays libres, riches et prospères. Ils ont des métiers super, ils travaillent pour des sociétés riches. Ils accumulent des richesses, ils achètent des maisons, ils conduisent de belles voitures, ils possèdent peut-être des mobile homes, si c'est votre truc, je ne sais pas, d'accord? Ou peut-être ils vont en vacances dans des beaux hôtels. Peut-être qu'ils s'achètent même des timeshare pour partir en vacances. Ils peuvent s'acheter des bateaux et des motos, des jet-skis. Ils peuvent aller skier dans les Alpes. Je suis à une heure. Peut-être du meilleur ski au monde, c'est quand même incroyable. Ils peuvent faire de la plongée sous-marine, ils ont une bonne santé, ils ont une bonne sécurité sociale, peut-être des mutuelles qui remboursent bien, ils ont des programmes de retraite, ils ont peut-être des maisons secondaires, ils vivent dans des pays où la liberté chrétienne est totale, ils peuvent rêver des rêves chrétiens, ils peuvent enseigner et prêcher et évangéliser librement, ils peuvent ouvrir des écoles chrétiennes, des instituts bibliques, des facultés de théologie, ils peuvent posséder des bibles, ils peuvent posséder des livres chrétiens, diffuser des CD, avoir des sites internet super géniaux où on a des vidéos chrétiennes maintenant, ils peuvent aussi organiser des concerts chrétiens, avoir des livres chrétiens, des programmes radio chrétiens, ils peuvent avoir des programmes télévision chrétien. Mes amis, pour certains, la vie chrétienne, elle est bien, elle est facile. On a l'impression. Vous savez quoi? Et c'est ça qui est incroyable. Les deux, ceux qui ont sacrifié tellement, ceux qui ont été martyrisés pour le Seigneur et ceux qui ont eu très peu de sacrifices, reçoivent tous deux toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ lorsqu'il meurt. Et ça, je pose la question, est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste, c'est la grâce. Pourquoi est-ce que moi, qui n'ai jamais rien souffert de ma vie presque, je recevrai le même ciel que ceux qui ont tellement souffert pour leur vie? Je ne comprends pas, mes amis, c'est la grâce. Et Dieu nous a donné, nous qui sommes dans les pays libres dans lesquels nous sommes, une grâce abondante. Je conclue. Je conclue. Mon ami, la vie n'est pas juste, elle est grâce. Chrétien, tu mérites qu'une chose de la part de Dieu. Tu sais ce que c'est? L'enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. On mérite de périr, selon Jean 3,16, parce que notre péché est une offense à Dieu. Je mérite les flammes de l'Éternel, mais, à cause de la grâce en Christ, j'ai reçu le pardon total de mes péchés et la vie éternel en Christ. Est-ce que c'est juste? Non, c'est la grâce. 2. Accepte avec joie les sacrifices subis pour l'Évangile. Je ne dis pas que la vie est facile là où on est. On peut vraiment souffrir pour l'Évangile, à notre travail, à l'école, dans notre voisinage. Je ne diminue pas cela. Mais comparé à la félicité éternelle qui nous attend, c'est vrai que nos sacrifices sont quand même minimes, j'ai l'impression. Donc nous devons souvent penser au sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Et si tu dois souffrir, si tu dois sacrifier, rappelle-toi de Matthieu 20. 3. Tous ceux qui se repentent reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, reçoivent le ciel. Tout chrétien, tous ceux rachetés en Christ reçoivent le ciel, même ceux que tu n'aimes pas. Il y a peut-être des chrétiens qu'on n'aime pas, ça arrive. Mais faisons attention. Un chrétien reçoit la vie éternelle. Ça, c'est intéressant. Vous savez, dans la parabole, ceux qui ont râlé à la fin, hein, les râleurs, ils ont quand même reçu un denier. Quand même génial, non? On est tous en procédé de sanctification, tous. Ne jugeons pas trop vite. Et 4. La grâce qui est décrite ici est disponible pour tout le monde. Nous devons leur annoncer. Comment faire pour annoncer cette grâce? Eh bien, ça, on en parlera dans notre prochaine séance. Amen. Seigneur, nous sommes émerveillés par la grâce que tu nous offres. Seigneur, tellement imméritée. Oh Seigneur, nous qui méritions le courroux de Dieu, nous avons été graciés et accordés la vie éternelle. Seigneur, nous voulons t'adorer, te bénir, te louer, te remercier. Et excuse-nous, Seigneur, pardonne-nous, parce que parfois, on se plaint et on se plaint beaucoup trop. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.